À Saumon, les pauvres, écrivait Baudelaire dans un poème en prose qui a fait couler beaucoup d'encre. Un court texte où il raconte, non sans provoque, comment un homme, pour le plaisir d'une expérience, tabasse un mendiant de 60 ans, lui bouche un œil, lui brise deux dents, l'empoigne à la gorge et lui secoue la tête contre un mur, comment il lui brise les omoplates à coups de pied, et avec une branche d'arbre, se met à le battre avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un beefsteak. Mais le mendiant soudain se retourne, se redresse, et avec un regard de haine, se jette sur son agresseur, lui poche les deux yeux, lui casse quatre dents, et avec la même branche d'arbre, le bat dru comme plâtre. À Saumon, les pauvres, point d'exclamation, écrivait Baudelaire en 1864, comme une ignoble invitation lancée à tous les bourgeois. On l'a lu comme une satire, ce poème, comme un geste politique, ou carrément comme une incitation à la lutte des classes. Fallait bien lui trouver un sens, tant il sidère par sa violence. Mais ce qu'il met en scène littéralement et qui résonne tant en ce moment, c'est surtout le retour du refoulé, celui qu'on sent venir et qu'on refuse de voir. Ce qu'il met en scène, ce poème, c'est qu'à force de renier ou d'accabler, à force d'accepter les rapports de domination de nos sociétés, on n'est pas à l'abri d'un bon gros retour dans ta gueule.
Boomerang, spécial Cannes.
Des centaines de personnes en smoking et en robe du soir avec des godasses trop serrées pour se rendre au palais.
France Inter, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang pour cette dernière émission au Festival de Cannes. Mon invité d'aujourd'hui interroge la violence avec laquelle la société refoule certains individus. Vous avez peut-être vu Memories of a Murder, The Host ou encore Le Transpersonnage. Deux ans après Okja, il revient sur la croisette avec Parasite en compétition officielle. C'est notre palme d'or à nous, un film aux airs de comédie familiale au départ, avec tout le mordant de la satire et le piment des rebondissements, du suspense, peut-être qui sait, de l'horreur. Bonjour, Bongjuno.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que nos sociétés refusent de voir? Qu'est-ce qu'elles refoulent, à votre avis?
Je pense que c'est les douleurs des choses qui existent réellement, la pauvreté. Je pense que c'est ce genre de choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais en fait, quand on regarde, ce n'est pas forcément d'un point de vue de la part des riches. Je pense que c'est aussi bien chez les pauvres, ils n'ont pas envie de voir ce genre de choses.
Le creusement des inégalités en Corée du Sud, par exemple, votre pays, est là où se déroule Parasite. Vous le mesurez à quoi, ça?
Je pense que c'est vraiment lié au capitalisme dans lequel on vit depuis très longtemps. La technologie, évidemment, évolue avec le temps qui passe, mais malgré ça, effectivement, la différence entre les différentes classes n'arrive pas à être rapprochée.
Et quelles conséquences dangereuses pourrait avoir cette séparation de plus en plus nette entre les riches et les pauvres, pour vous, entre les dominants et les dominés ?
Je pense que c'est ce film justement qui montre cette dangerosité. Ce n'est pas forcément un film qui raconte l'histoire des méchants. C'est effectivement une histoire qui raconte l'histoire des gentils et aussi des méchants. Enfin, représentés d'une façon un petit peu de manière grise. C'est-à-dire, ils sont ni blancs ni noirs. Et c'est pour ça justement qu'on arrive à avoir une tragédie qui est vraiment explosive. C'est-à-dire que chacun entre nous, on a effectivement cette flamme qui peut exploser à tout moment.
Mais en Corée du Sud, jusqu'où est-ce que ça pourrait aller, Bong Joon-ho? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une révolution? Peut-être?
Récemment, j'ai entendu effectivement qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes. En Corée, on a fait une grosse manifestation tout à fait pacifiste pour destituer la présidente. Et c'est quelque chose qui est effectivement lié beaucoup plus à l'image politique. Mais la génération jeune en Corée, de manière sur un plan économique, c'est vraiment tellement difficile qu'ils commencent vraiment à être saturés. Et je pense que c'est ce stress qui aussi permet en fait de créer en fait une société pour essayer de revenir et de arrondir les angles.
Alors face à ces dysfonctionnements, vous parlez des manifestations, mais quelle arme politique est-ce que ça peut être? Le cinéma. Bongjuno.
Le film ne donne pas forcément une réponse directe. Et je pense pas que le cinéma a une fonction pour vraiment résoudre tous les problèmes. Mais en revanche, je pense que ça permet de nous mettre en face de la réalité. Et je pense que Parasite, notamment, c'est quelque chose qui peut faire ce genre de choses. Et il ne faut pas surtout dire que, voilà, ça passe forcément par par un film très sérieux, on peut effectivement aussi retrouver ce type de message à travers un film où il y a de la comédie et de la tragédie et tout plein de gens.
Votre film Parasite, il met en scène, Bongiorno, la violence d'un rapport de classe entre une famille richissime et une famille très pauvre qui va se mettre à son service et profiter de la crédulité de ses maîtres. C'est un film qui déploie, il faut le dire, des trésors d'humour, mais c'est aussi un film violent. La violence, quelle place est-ce que vous lui donnez, pas seulement dans ce film d'ailleurs, mais dans votre cinéma d'une manière plus générale, dans tous vos films?
La violence en tant que telle, avec des images hardcore, ce n'est pas du tout mon intention et c'est pas du tout justement ma tasse de thé. Je dirais, par exemple, dans un film où on voit de la violence pure avec des corps mutilés, je pense que ce genre de choses, justement, fait que les spectateurs vont s'éloigner de plus en plus parce qu'ils vont juste prendre le cinéma en tant qu'une réalisation avec des effets visuels, des effets spéciaux. Dans ce film, effectivement, il y a un petit peu de sang, mais je pense que j'avais vraiment envie de raconter ça avec une intention beaucoup plus prononcée sur la psychologie, par exemple. Et je pense qu'on doit jouer sur le tempo de la violence. Par exemple, dans la scène du climax, vraiment, dans ce film, je voulais vraiment jouer sur le rythme, sur pour que les spectateurs, quand ils vont regarder le film, ils vont s'attendre à ce qui va se passer après.
Scène dont évidemment on ne dira rien, bon, je l'entends, le film repose sur ce moment, cette violence, elle s'exprime de façon tantôt souterraine, en effet, tantôt explosive et nous fait basculer dans quelque chose d'extrême, dans quelque chose d'excessif. Ce goût pour l'excès, ce goût pour la démesure même parfois, d'où ça vous vient?
J'ai pas pionté라서 그런 것 같아.
Je pense que c'est parce que je suis un peu pervers.
Pervers, vous, Bong Joon-ho?
Il n'y a pas juste en fait la connotation en fait SM par exemple pour dire pervers, hein, en tant que réalisateur, en tant que créateur, je pense que c'est cette obsession qui est liée à faire quelque chose, à vouloir faire quelque chose que les autres ne le font pas.
Et dans quelle mesure, à votre avis, cette recherche de l'excès a un lien avec l'histoire du peuple coréen, un peuple occupé par le Japon pendant 35 ans, un peuple divisé en deux aussi, un peuple constamment sous pression?
Je pense que la société coréenne, évidemment, c'est une société où il y a beaucoup de choses qui se passent de manière assez extrême. Et moi, personnellement, je pense que, par exemple, la société coréenne est beaucoup plus sympathique, vraiment par rapport à ma personnalité. C'est moi qui suis vraiment complètement tordue.
Avec quel fantôme vit la société coréenne, Bong Joon-ho? Si je vous parle de fantôme, c'est parce que, mine de rien, sans trop en dire, il en est un petit peu question dans votre film. De fantômes.
Je pense que le fantôme, c'est ça. Effectivement, c'est quelque chose qui existe, mais en même temps, on a vraiment besoin et on a envie de croire que ça n'existe pas. Parce que dès lors où ça devient réel, ça devient vraiment quelque chose de très difficile pour moi et très douloureux. C'est quelque chose, effectivement, qui existe réellement, mais on met le mot, on utilise le terme fantôme pour dire que voilà, on fait abstraction.
Mais c'est intéressant quand même, parce que ce que vous montrez dans Parasite, c'est une société plus divisée que jamais, dans un pays lui-même divisé par une frontière militaire. En quoi la menace permanente d'une guerre a-t-elle façonné votre imaginaire de cinéaste?
La séparation, effectivement, c'est, je pense qu'il y a un traumatisme collectif pour le peuple coréen. Quand on regarde la dernière scène, justement, du film, le père et le fils arrivent à communiquer à travers le morse, et c'est-à-dire, il y a une distance réelle qui existe entre ces deux êtres. Par exemple, moi, pour ma mère, je sais que sa grande sœur est restée, effectivement, suite à la guerre de Corée, en Corée du Nord. Donc ça fait 65 ans, 70 ans que les deux sœurs n'ont jamais pu se revoir. C'est vraiment quelque chose de tellement violent, c'est une histoire vraiment tellement violente pour un pays, pour un peuple, et nous avons pas le choix, on est obligé de subir ça. Et cette séparation, ce au revoir, je pense que cette histoire nous fait partie de nous-mêmes, et maintenant, encore plus de nos jours, on a cette séparation entre les différentes classes sociales d'un point de vue économique, et ça c'est ce qui me rend triste.
Alors c'est peut-être pas vous qui êtes taré, Bong Joon-ho, peut-être que c'est la société qui a influé sur vous aussi, C'est ces peurs constantes, cet imaginaire collectif chez vous, non ?
Moi aussi,
je vis effectivement dans la société coréenne, donc forcément j'ai été influencée. Mais je pense que, quelque part, je suis quand même un petit peu beaucoup plus tordue, beaucoup plus tarée, et j'espère, en tout cas, et je pense, je suis persuadée que la société coréenne est beaucoup plus saine.
Celle qui est complètement tordue dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité inoffensive, mais qu'on aime bien quand même. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 24 mai ?
Well, the characters represent a transcendent feeling that we all have inside us. We could do better. We want to do better.
Le King Kirby pour sa 9e édition. La Biennale de bande dessinée de Cherbourg met à l'honneur l'américain Jack Kirby, surnommé The King of Comics, légende du 9e art, créateur de super-héros comme Hulk, Captain America ou les 4 Fantastiques. Le dessinateur et scénariste est au cœur d'une expo événement qui réunit pour la première fois en Europe près de 250 de ses dessins originaux. Une plongée furieusement pop dans la galaxie Marvel, un condensé d'histoire de la BD américaine. On aime.
I see my coming out as an intervention. In a moment in time, I just felt that that intervention was necessary.
Wainaina n'est plus là, l'écrivain kényan et icône de la cause homosexuelle, Binyavanga Wainaina, vient de s'éteindre à l'âge de 48 ans. Lauréat du prix Kane en 2012, l'une des plus prestigieuses récompenses pour la littérature africaine en langue anglaise, véritable chef de file du renouveau littéraire du continent, il avait notamment fait paraître Comment écrire sur l'Afrique, un court texte drôle et provocateur qui luttait contre les clichés et les idées reçues. Il avait fait son coming out en 2014, un acte politique sur un continent où l'homosexualité est encore pénalisée dans de nombreux pays. RIP.
Tu no eres na, tu tienes la bemba colora.
On va swinguer dans le bocage ou sous les pommiers, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Ce week-end, pas moins de 2 festivals inaugurent la belle saison du jazz en France. La 38e édition de Jazz sous les pommiers s'installe ainsi à Coutances en Normandie et invite la diva, Angélique Kidjo, Eric Truffaz ou Dave Liebman. Dans le même temps, Jazz dans le bocage fêtera ses 20 ans au cœur de mon cher Bourbonnais avec Mathias Eich, Aaron Parks ou Émile Parisien. À la bien.
Cannes, dernier jour, 9h du matin.
Bon, Simon, tout baigne. Hein. Il y a une grosse pression sur le film. Les Américains veulent faire un remake, moi je suis en pourparlers avec l'Allemagne, tout va bien.
Tout va bien sur la croisette, car aujourd'hui, dernier jour de compétition, c'est la Française Justine Triet qui entrera dans la course à la palme avec le dérangeant Sibyl, porté par le flamboyant duo d'actrices Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Compétition toujours, le Palestinien Elia Suleiman montera les marches avec son long métrage It Must Be Heaven. Mais notre événement de la journée à nous, c'est évidemment l'arrivée en force et en muscle de l'icône Stallone, Sylvester, qui vient présenter en exclu mondial les premières images du 5e volet de Rambo. C'était pas ma guerre. Le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, invité de Boomerang à Cannes pour son nouveau film Parasite. Votre dernier festival, c'était il y a 2 ans avec Okja, un film Netflix qui avait créé une sorte de polémique puisqu'aucune diffusion en salle n'était prévue alors en France. Pour vous, je me suis posé la question surtout, qu'est-ce que c'est ? Quel lieu est-ce que c'est ? Une salle de cinéma ?
C'est effectivement aussi un bon moyen de regarder des films sur une plateforme digitale via le streaming, mais personnellement, je pense qu'effectivement, on est obligé d'aller en salle, et la salle de cinéma permet effectivement, donne quelque chose vraiment de différent, c'est-à-dire que c'est pas forcément la taille de l'écran. Je pense que c'est le seul lieu où le réalisateur a la possibilité de donner en fait au spectateur de regarder. Regardez le film du début à la fin sans arrêter. Et c'est pour ça que j'adore la salle de cinéma.
J'imagine que les cinémas ont dû beaucoup changer en Corée, notamment avec l'apparition d'immenses multiplexes. À quoi ressemblaient les cinémas de votre enfance, à vous ?
Quand je regarde par exemple comme dans Cinéma Paradiso, c'est un peu ce type de salle de cinéma en Corée. C'est très nostalgique de regarder des films dans cette salle. Par exemple, quand je regardais Terminator ou Scarface de Brian De Palma, j'ai regardé des films dans ce type de salle de cinéma. Et actuellement en Corée, toutes ces salles ont disparu. Il en reste peut-être une ou deux dans une ville qui s'appelle Gwangju en Corée.
Et qu'est-ce qu'on voit sur les écrans de cinéma coréen aujourd'hui? Je vous pose la question parce qu'on souligne souvent le dynamisme de l'industrie cinématographique coréenne. Et quel pays de cinéma est-ce que c'est encore, ou est-ce que c'est toujours la Corée?
엄청 다양한 영화들이 있죠.
C'est très diversifié. Je pense que d'un point de vue général, c'est limite très difficile de parler comment est le cinéma en Corée. Je pense pas qu'il n'y a pas de genre vraiment typique. Et je pense que c'est en même temps le point fort justement du cinéma coréen. Et aussi, ce qui est vraiment hallucinant, c'est tout ce qui est cinéma indépendant en fait en Corée actuellement. On a vraiment de nouveaux talents.
C'est-à-dire que ce qui est passionnant avec le cinéma coréen, c'est qu'il est indissociable quand même de sa dimension contestataire. C'est-à-dire que les premiers films dits coréens ont été réalisés alors que la Corée était encore sous domination japonaise. Dans quelle mesure le cinéma est-il un moyen pour un pays, pour un peuple, d'affirmer, de défendre aussi son identité ?
Par exemple, il y a le film qui s'intitule Arirang d'un réalisateur coréen. Et je pense que c'était un film qui est très représentatif justement du peuple coréen qui vivait sous l'occupation japonaise. Et je pense que dans l'histoire du cinéma coréen, c'est quelque chose de très très important. Même plus tard, effectivement, on n'est plus sous l'occupation japonaise, mais après on a eu un gouvernement totalement militaire. Et là, il y a eu beaucoup de films coréens sur justement sur le soulèvement de Gwangju. Il y a aussi des films qui ont raconté l'histoire indépendante pour la révolution, effectivement, de ce peuple coréen. Je pense qu'il y en a toujours eu, effectivement, ce côté contestataire.
Diriez-vous que votre cinéma, Bong Joon-ho, qui est un cinéma très populaire, est également contestataire ?
Personnellement, je ne pense pas et je ne crois pas effectivement qu'un film doit changer la société. Je pense qu'on doit aussi conserver la beauté cinématographique d'un film pur. C'est ce que j'aspire aussi à ce genre de choses. Quand on parle de Parasite notamment, c'est justement la réalité qui nous entoure et j'essaye de transmettre ce message-là à travers le film. Ne serait-ce que ça, c'est pour moi vraiment quelque chose d'énorme.
Je crois que c'est un film français qui vous a fait connaître l'un de vos premiers chocs de spectateurs. Bong Joon-ho, ce film, c'est Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, Palme d'Or en 1953. Rien que ça.
Écoute-moi bien, il y a 2 000 $ à la clé.
Oh mais je m'en fous du pognon, moi je tiens ma peau.
Trop tard mon pote, fallait réfléchir avant. J'ai pas demandé à venir, non? Je t'ai assez dit que j'avais les foies.
T'en fais pas, ma gosse, je te montrerai à mesure.
Tu te souviens? Bah maintenant, faut passer et on passera.
Ah, mais c'est de la connerie.
La connerie. La connerie, c'est de s'être embarqué dans cette course d'andouille. Et c'est toi qui m'as embarqué. N'oublie pas. Allez, mets-toi derrière et fais gaffe.
Pauvre mec, hein. Tu l'auras ta Légion d'honneur. À titre posthume.
Pourquoi Le salaire de la peur, Bong Joon-ho? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point? Dans ce film de
Clouzot.
Je l'ai vu quand j'étais vraiment super, super jeune. J'avais 8 ans, 9 ans. Et c'était vraiment un traumatisme pour moi. J'étais tellement, mais submergée dans l'histoire, en fait. Par exemple, il y a une scène où on voit la jambe qui se fait complètement mutiler par un camion. Et ça, cette scène, elle est restée ancrée dans ma mémoire. Et j'étais tellement, mais touchée psychologiquement. Et par exemple, je me suis dit, mais pourquoi Yves Montand accélère alors qu'il sait très bien qu'il est en train de rouler sur quelqu'un?
À quoi ça tient un grand film pour vous, en fin de compte?
Justement, par exemple, cette œuvre-là de Clouzot est aussi, par exemple, un film qui m'a vraiment beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs les films de Claude Chabrol qui ont été réalisés dans les années 70. Et aussi, c'est mon mentor. Je pourrais citer aussi Kim Ki-young qui a réalisé The Housemaid et The Insect Woman. C'est vraiment des réalisateurs qui m'ont tellement marqué. Mais au-dessus de tout ça, j'ai mon gourou, notre gourou qui est Hitchcock. Je pense que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui sait réaliser ce type de film.
Et sans rien révéler de Parasite, il y a du Chabrol et il y a du Hitchcock parfois dans ce film. J'ai envie de vous poser une question parce que vous parliez de beauté tout à l'heure, Bong Joon-ho. Une question que j'ai posée à tous mes invités pendant cette quinzaine. Qu'est-ce que c'est pour vous une belle image de cinéma ?
아름다움이란 거는 뭐 물론 그 자체 팬시한 아름다움을 말하는 건 아니고 영화가 가진 여러 가지
La beauté effectivement du cinéma n'est pas forcément quelque chose tout de suite lié juste visuellement. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi surprendre les spectateurs et qui va étonner justement à un moment donné où on ne s'y attend pas. Et quand on par exemple essaye de retranscrire les émotions d'une certaine façon dans le cinéma, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de moyens. Ça peut être les mouvements par exemple de la caméra, ou sinon ça peut être aussi les cadres, ou ça peut être même un tout. Hein.
Et je pense que
comment on peut exprimer en fait les émotions d'un être humain, je pense que c'est ça qui fait une belle image, une image du cinéma.
On va reparler évidemment d'images, mais aussi de cadres, et peut-être même également de maisons, tiens, parce que c'est un lieu qui a beaucoup de sens au regard de votre film, Bong Joon-ho, un film Parasite, on le disait, qui commence comme une aventure familiale, une comédie sociale, et qui vous fera rire autant que frissonner, je peux rien vous dire. Alors on écoute Our House de Madness. C'était en 1982 sur l'album The Rise and Fall. Vous êtes sur France Inter avec Bong Joon-ho. C'est côté Boomerang à Cannes.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got his leg to keep. He can't hang around. As a crowd, there's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Des films tendres. Là, il y a un retour au cinéma spectaculaire.
Augustin Trapenard, sur France Inter.
C'est intéressant parce qu'il a quelque chose des grands hommes de cinéma. Vous avez cette flamme dans le regard, ce visage animé, ces mains passionnées qui tient bien sagement devant lui comme pour contenir la fougue, hein. L'envie d'aller plus loin, de voir plus grand. Il a le cheveu un petit peu fou ce matin, les petites lunettes, un sourire débonnaire. D'ailleurs, il est en train de sourire, voire de rire à mesure que je lui parle avec son petit t-shirt noir. Le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, dont vous avez vu peut-être The Host ou Le Transpersonnage, invité de Boomerang ce matin pour Parasite, ce film qui pourrait bien triompher fait samedi lors du palmarès. C'est pas que notre avis, c'est aussi ce qui se murmure un petit peu partout dans les arcanes du palais. Parasite, c'est l'histoire d'une famille de marginaux sans emploi, qui vivent dans un souplex humide et obscur et qui, par sa redoutable ingéniosité, va tirer parti de la naïveté d'une famille richissime qui vit dans une maison d'architecte en se mettant à son service. Ce lieu, la maison, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, Bong Joon-ho?
Dans cette famille riche, pour moi, effectivement, c'était quelque chose qui représente un peu l'univers de ce film. C'est-à-dire que 60% du film se raconte effectivement à travers cette histoire de famille riche. Et aussi cette maison, effectivement, c'est très très important parce que il était important de voir comment elle était constituée. C'est-à-dire les différents angles, à partir d'où on arrive à voir quoi et en fait, comment cette construction en elle-même, cette construction elle-même était effectivement la structure du scénario. Et dès l'écriture, j'ai effectivement conçu cette maison, et cette maison, je l'ai donnée effectivement à mon directeur artistique pour qu'il fasse la maison telle qu'elle.
Effectivement, elle est tout en transparence, tout en cadre, tout en ligne de fuite, en perspective. L'architecture de cette maison, vous l'avez conçue comme un studio de cinéma, en fin de compte?
그리고 그 하나의 스테이지처럼 된 공간도 그
oui,
그 부잣집에 있고
c'est un peu,
되게 거대한 창문이 있어서 그 집 안에서
c'est-à-dire que quand on regarde à l'intérieur de la maison à travers cette grande baie vitrée, on a l'impression que c'est un petit peu un écran de cinéma. Et le plus important, je pense que c'est la maison justement de cette famille pauvre et ce contraste entre la maison des pauvres et la maison des riches. Parce que quand on regarde aussi dans cette maison qui est à l'entresol, on a effectivement cette petite lucarne qui permet de voir l'extérieur, le monde extérieur. Et effectivement, c'est à travers cette lucarne où on voit la lueur du jour, peut-être 15 minutes par jour. Alors que dans la maison des riches, on voit cette lumière du jour qui est constante, toujours présente. Et ce contraste-là, pour moi, c'était très important.
C'est intéressant à vous entendre. On a l'impression d'entendre un artiste, en fait, Bong Joon-ho, cette faculté de poser des cadres, de composer des tableaux vivants. Ça dit quelque chose de l'importance des beaux-arts et du dessin, d'ailleurs, dans votre cinéma. Quel rôle joue le dessin dans votre processus de fabrication du film? Tout part de là.
Mon père
est décédé il y a deux ans et mon père était graphique designer et depuis que je suis gamin, effectivement, j'avais beaucoup de livres sur les artistes et je jouais effectivement en regardant ces bouquins-là. Et aussi, quand j'étais gamin, j'avais vraiment envie de devenir quelqu'un, en fait, un dessinateur de bande dessinée et je dessinais aussi énormément. Et finalement, l'un dessin animé, c'est un petit peu comme un travail de storyboard et je pense que c'est quelque chose qui est très habitué en fait pour moi.
Vous en faites de cette maison notamment, puisqu'on en parlait, une sorte de théâtre aussi, puisque vos personnages prétendent, Bong Joon-ho, être quelque chose qu'ils sont pas. Ils ne font en réalité que jouer la comédie sur cette scène. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est un bon acteur pour vous? Parce que c'est un film Parasite qui repose aussi sur des performances absolument extraordinaires.
Dans cette famille de pauvres, effectivement, on dirait que c'est des escrocs, hein, parce qu'ils sont en train de jouer quelque chose qu'ils ne sont pas. Et pour moi, un bon acteur, si quelqu'un me pose la question, je pense que c'est très simple. C'est Song Kang-ho.
Ah, c'est lui.
Oui.
Et pourquoi?
Je
pense que je n'ai jamais vu un acteur qui est vraiment aussi excellent que lui. Je pense que c'est une personne qui arrive à montrer et à aller à l'au-delà de ce que veut un réalisateur sur les écrans de cinéma. Et aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment sa façon d'analyse personnelle et son approche artistique. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement évident et je n'ai même pas besoin d'expliquer quelque chose en particulier avec lui, il arrive à tellement bien comprendre le scénario qu'il joue sublimement bien.
Et il est capable de basculer d'un registre vers l'autre aussi. C'est d'ailleurs ce qui frappe dans votre film, Bong Joon-ho, la manière dont vous passez d'un genre cinématographique à l'autre. Quel genre précisément? Quel genre est-ce que vous convoquez?
Personnellement, oui, je pense que c'est un peu ironique parce que moi, je me considère déjà en tant que comme réalisateur de films de genre. Mais une fois que je me pose la question, mais c'est quoi le genre de film que tu as fait? Quand on me demande, c'est parce que vous le savez peut-être pas aussi, mais là, quelques jours avant, j'ai vu que quelqu'un avait mis un commentaire Bong Joon-ho a fait son propre genre. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des choses qu'on puisse me dire.
Enfin, il y a quand même quelque chose qui emprunte à la comédie et qui révolutionne la comédie, à mon avis. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie, Bong Joon-ho? Vous qui êtes assez souriant, je dois le dire.
En fait,
je pense que je suis quelqu'un qui cherche effectivement le côté drôle, même quand c'est une situation très triste ou très noire. Je pense que c'est parce que je suis un peu schizophrénique quelque part. Mais quand je regarde, par exemple, la réaction des spectateurs, je pense qu'effectivement, ils sont un petit peu en train de rigoler, mais ils sont un peu mal à l'aise en même temps. Parce qu'ils se disent, oui, si je rigole sur cette scène, je pense que ça va faire en sorte que l'acteur va se sentir très mal à l'aise. En fait, c'est un petit peu un sentiment complexe. Je pense que c'est encore une fois très pervers de ma part.
C'est le malaise qui vous fait rire, Bong Joon-ho. Encore une fois très pervers. On aura un beau portrait de vous, décidément, ce matin.
Et
je suis tellement soulagée que je puisse effectivement montrer ma perversion à travers le cinéma. Parce que toute cette énergie, je peux effectivement la mettre dans l'art du cinéma.
En tout cas, ça nous divertit profondément. Est-ce que c'est pour vous aussi l'une des fonctions du cinéma, de divertir, tout simplement?
영화 자체만이 가진 순수한 흥분이 있다고
Effectivement,
생각해요.
Effectivement, c'est l'excitation propre du cinéma. Je pense que les autres médias ou dans d'autres expériences, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir de la même façon. C'est quelque chose quand on regarde un film dans une salle de cinéma qu'on peut ressentir ce genre de divertissement. Et c'est très important, effectivement, de transmettre ce côté-là à travers un film. Et en fait, un spectateur, quand il va regarder mon film et une fois qu'il va rentrer à la maison, il va peut-être se positionner, en fait, il va être en train de se questionner, ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un message derrière caché? Et s'il arrive à se poser ce genre de questions, moi je serais très content.
En fin de compte, pourquoi est-ce que vous en faites du cinéma? Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour vous? Vous avez fini par le savoir?
Je sais pas, en fait, j'ai commencé à être obsédée par le cinéma depuis que je suis gamin. Tout à l'heure, je vous ai dit effectivement que j'ai vu les films de Clouseau. Je pense que déjà, j'étais charmée. J'étais sous le charme du film, du cinéma. Et je pense que c'est même au-delà d'une obsession. Je pense que j'avais vraiment envie de posséder cette image. C'est-à-dire que des images, de l'imagination émane quelque chose de visuel, par exemple, des moments très précis. Et au final, même si ça prend des années, je vais le mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir en fait un film et j'ai besoin de le ressentir matériellement dans ma main. Et une fois que j'ai un Blu-ray ou un DVD dans ma bibliothèque, franchement, ça me réjouit. Et je pense que c'est un peu maladif.
Merci infiniment. Bong Joon-ho, et merci à votre interprète ce matin, Aram Kim. Je rappelle que Parasite est en lice pour la Palme d'Or. C'est même notre Palme d'Or à nous. Il sortira ce film en salle le 5 juin prochain. Et c'est évidemment un film France Inter. Merci à vous et merci aussi à toute l'équipe de Boomerang avec qui on a rêvé, sué, pleuré toute cette quinzaine, tout ce que vous voulez. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Biot, Pierre Martinerie, Paul Guillot, Jean-Baptiste Audibert. Sans oublier évidemment Raja Boudni et l'équipe technique de Radio France à Cannes. Pascal Bray, Sandrine Bréchaud, Cédric Lalanne, ainsi qu'Hélène Langlois, Tanguy Le Corneau, Benjamin Thieu, Florent Layani, Léo Prangère et Raymond Alboui. Merci pour ce 72e Festival de Cannes. À l'année prochaine sur La Croisette et à lundi à Paris. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
On parle tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots.